Vous êtes sur la bonne fréquence, sur le bon poste. Colosse au micro, toujours prêt pour la riposte. Divise l'opinion à la butée Pascal. Te fais voir des étoiles comme un voyage astral. Sonné comme saut de Popinski sur le mescal. Le tour de la planète box sans escale. Le plus grand de tous les temps, la Mohamed Ali. Encore plus résilient qu'était Arturo Gatti. Laurence écoute parler, et qu'importe ce que t'en dis. Tu vas finir au tapis, champion de catégorie. Laurence écoute parler, et qu'importe ce que t'en dis. Gauche, droite, gauche.
En direct du meilleur podcast en Amérique du Nord, selon ma famille, mais surtout ma mère. Là. Mon père m'écoute pas, mais je sais que ma mère m'écoute religieusement. Puis là, des fois, si je vous dis des affaires trop dures, comme cette semaine, je me suis obstiné avec le groupe Yvon Michel sur Facebook à penser que j'allais peut-être mourir comme Frank Choufi. Fait qu'il faut que je fasse attention, pas énerver maman. En direct d'un 2,5 de Rosemont à Montréal, c'est ton podcast préféré, Laurence écoute parler. Et des fois, en toute honnêteté, je vous fais un podcast, j'en ai pas envie, ou j'ai pas vraiment d'idée, mais je me sens obligé parce que je suis sur une séquence. Cette semaine, j'ai particulièrement hâte de vous parler. Je suis fébrile. C'est comme si j'étais retourné en amour avec la boxe. Bon, cette semaine, grosse semaine, date limite des transactions, j'ai regardé ça du coin de l'œil. Ensuite, j'ai pas fait grand-chose. J'aimerais tout de suite saluer ma meilleure amie Martine Vaillant-Bisson, ainsi que mon autre meilleur ami que je ne peux pas nommer. Pourquoi, là, vous allez dire, pourquoi je ne peux pas la nommer, puis je nomme toujours Martine? Ben, Martine, c'est une personnalité publique. L'autre, si je la nomme, est tellement belle, vous allez aller stalker sur Facebook, puis vous allez la chaler. Il y en a qui vont penser qu'ils peuvent me la voler ou quelque chose, puis elle est trop belle, c'est ça, elle est trop belle. Pour être nommé, ça ferait du trouble sur les médias sociaux, donc on tient son mort. Et cette semaine, bon, date limite des transactions, le Canadien n'a rien fait, moi je suis de bonne humeur, j'ai travaillé un peu, j'ai écouté du rap, j'ai écouté des podcasts, mais on n'a pas le temps parce que c'est trop un gros show cette semaine. Donc on lance tout de suite le show. De toute façon, je vais vous compter mon jeudi. Jeudi, je décide d'aller au Casino de Montréal pour assister au gala de Eye of the Tiger Management. Puis moi, j'arrive toujours en avance parce que j'ai un déficit d'attention. Quand je suis chez nous, ou dans l'autobus, ou au travail, j'arrive rarement à écrire mes textes ou à produire des choses. Donc là, je me suis dit, je vais aller au Casino. Puis au Casino, tous les journalistes, c'est vraiment des gens sérieux, genre, ils tapotent leurs textes. Fait que je vais faire à croire que je suis un des leurs, puis je vais tapoter mes affaires. T'sais. Fait que là, je travaillais sur un petit texte sur le matchmaking qui va sortir sur Punching Grace. Là, j'ai rencontré des autres amis de boxe, Manny Montréal, un type charmant. J'essaie de l'avoir en entrevue, il veut rien savoir. J'ai vu Marie-Ève Albert du podcast 120 secondes, et j'ai vu, tenez-vous bien, pour la première fois, Catherine Harvey-Pinard, qui est la sœur de Raphaël, mais est tellement bonne à l'écriture que je dirais plutôt que c'est Raphaël qui est le frère de Catherine Harvey-Pinard. Tu sais, l'élite dans la famille, c'est l'écrivaine. Elle, c'est la grosse affaire. Là. Ça va devenir... Là, elle doit avoir à peu près 25 ans, mais je vous dirais que ça va devenir la plus grande journaliste de l'histoire du Québec. Et à un moment donné, j'ai dit, fais attention, il y a du talent qui te sort des oreilles. Puis là, on a bien ri. Moi, j'ai mangé. Allez lire, là, Catherine Harvey-Pinard a écrit un texte sur Martine Vaillant-Bisson, Le combat de la vie. Puis si vous allez pleurer au moins trois fois. Là-bas, j'ai mangé un steak au Casino. Je voulais juste vous dire qu'il était bon en joie le vert. L'anecdote que je veux vous conter, c'est que j'ai dit, je vais le prendre bien cuit. Puis le gars, il dit, le cuisinier, il voudra pas. T'sais, prends-toi d'autres choses sur le menu. On fait pas ça bien cuit. On respecte trop la viande. Là, j'ai dit, je vais prendre médium. Il dit, correct. Mais je dis, un peu plus vers le bien cuit. Il dit, non, on fera pas ça, genre, tu vas le manger médium. Il me l'a amené, c'est un peu plus, je mordais direct dans la fesse du bœuf. Mais pour vrai, c'était super bon, puis j'ai compris pourquoi les adultes, comme vous à la maison, vous mangez votre viande médium bien cuit, médium saignant ou médium. Genre, c'est vrai que la viande était incroyable. Je la réchauffais un petit peu dans ma petite sauce brune aux trois poivres. Oh mon Dieu, j'ai goût de lâcher le podcast, même si c'est 8 heures le matin, pour aller en manger un autre au casino. Puis après ça, j'ai mangé tout mon steak, mes frites étaient rendues froides. Ça, c'est, par exemple, c'est à peu près le seul petit bémol, c'est qu'on devrait réchauffer mes frites au micro-ondes avant que je les mange. Puis tartelette au sucre, c'était incroyable. Là, ce que je veux vous dire, on est toujours en mode introduction. Je veux vous dire que c'est ça, le gala de boxe au casino, on a quand même, tu sais, dans ma théorie, là, de okay, on commence le podcast. Début du podcast sur la boxe québécoise. Dans ma théorie de comment construire un gala de boxe, si tu veux vraiment me faire plaisir, disons qu'on construit par le début. Ok, je suis à l'aise qu'il y ait des boxeurs de 18 à 20 ans qu'on vient construire l'affiche. Tu sais, comme là, exemple, à chaque gala, on commence avec... Wilkins Mathieu et John Robbio. Tu sais, on les a comme matchés. Puis là, eux, ben, ils ont une petite tendance à faire des victimes. Tu sais. J'ai ça ici sur ma feuille mobile. John Wilkins Mathieu a gagné par KO au deuxième, puis John Robbio a gagné par KO au deuxième. Vous voyez un peu ce que je vous raconte. Là. Donc là, on fait des victimes en début de soirée. Tu sais. Puis, ben, c'était correct. On va chercher des adversaires. On essaie de tout leur montrer. Là, construction d'un gala de boxe, t'as tes combats de recrues, je dirais, au début. C'est bien correct, je peux vivre avec ça. Après, on va chercher Mehmet Ünal. Là, Mehmet Ünal, il y avait un adversaire. Lui, Mehmet, il passe tous les tests qu'on lui envoie dans les dernières semaines. T'sais, il dévisse des gens. Mais là, j'ai des feuilles aujourd'hui, c'est rare. On y avait trouvé un adversaire, Facundo Galovar, qui était un vétéran argentin. Puis souvent, ces gars-là, ils savent qu'avec leur fiche, ils seront plus jamais champions du monde. Mais ils se font un plaisir, ils se font un... J'arrive pas à trouver le mot, un orgueil. J'ai construisé la phrase. Là. Ils se font une fierté, c'est le mot que je cherchais, de faire la limite pour garder une certaine valeur. T'sais, on en parlera tantôt. Je vais avoir un meilleur exemple sur la même carte. Fait que lui, sa fierté, c'est de faire la limite pour garder sa valeur puis faire le tour du monde. Là, il a servi à Mehmet Ünal. Ünal qui obtient sa mémoire est bonne, sa 7e victoire. Et on est sur sa 9e victoire. Et on est sur les combats de 8 rondes. Donc, Mehmet, qui est rendu dans le top 60 sur BoxRec, t'sais, éventuellement, on va être tranquille à la maison en train de manger une fondue au fromage. Puis, on va recevoir un courriel, ça va être marqué « Mehmet Ünal affronte ». Et là, on va peut-être aller chercher, je vais donner un exemple, un Ronald Ellis qui a perdu le contrôle de son poids. On va aller chercher, je m'en allais dire Marcelo Caceres, mais là, il a été ramolli un peu. On va trouver... Ça peut être Alante Fox qui aurait perdu le contrôle de son poids. On va aller chercher un comparable d'un gars qui a fait la limite avec soit Mbili, Bazinian ou maintenant Osley Iglesias. Ou même un gars qui aurait fait la limite avec qui aurait fait des rondes avec Kataev. Et on va nous l'amener ici, ou Albert Ramirez, quelqu'un qui aurait fait des rondes avec Albert Ramirez, exemple. Le dernier dont j'ai oublié le nom, là, c'était qui? Là? Il s'est rendu au 10e. Oh, Arthur Ziadinov. On va aller chercher un Arthur Ziadinov. Puis on va dire, tiens, mon Mehmet. Et là, ce sera le combat de sa vie pour nous prouver que Mehmet est une bonne signature. Mais j'ai confiance en Mehmet pour le moment. Ensuite, on a eu Luis Santana qui, si ma mémoire est bonne, a gagné au 2e round par KO. On a eu Arthur Bjarslanov qui avait un adversaire tout croche. Là, ça, j'ai dit, bravo pour les débuts, mais t'sais, en moins pour l'adversaire tout croche. Là. Non, c'est moins pour l'adversaire tout croche. A gagné au 2e round. Ensuite, sur ma feuille mobile, on passait aux choses sérieuses. Okay? Là, c'est pas mal le clou. T'sais, c'est le gros moment de la journée, mais je vais suivre l'ordre des combats par... pour avoir une structure. Vanessa Lepage-Joannis, je dois vous le dire en 1000, mais je peux vous le dire en 1500 aussi. Vanessa, c'est une belle histoire. Elle s'en va à l'âge de 21 ans au Mexique affronter Alejandra la Tigra Jiménez. Et elle va se faire knocker au quatrième par une fille de 225 livres qui est ses stéroïdes. Okay? Après ça, profonde dépression, elle s'est faite frapper tellement fort à la tête, elle est étourdie, elle file pas. Elle fait du Laurent Poulain. Là. Netflix, Doritos, puis elle se commande du Pizza Hut sans arrêt, OK? Sans arrêt. Il y en a qui voyagent dans le sud, il y en a qui mangent du Pizza Hut. Elle était sur le Pizza Hut, OK? Elle monte à 325 livres sur 5 pieds, 4,5, OK? Elle se regarde dans le miroir, 5 pieds 7, elle se regarde dans le miroir un matin, puis elle dit « C'est dégueulasse. J'ai perdu le contrôle, j'ai honte. » Je fais ça chaque matin quand je m'encore dans le miroir. Mais moi, après 30 minutes, j'ai recommencé à mal manger par rien faire. Vanessa a dit que ça n'a pas de sens. Et là, elle commence. Elle fait sa préparation de repas les dimanches pour les 6 jours. Parce que le dimanche, elle se permet une demi-lasagne, OK? Avec une salade César, vinaigrette à côté. Et là, elle décide qu'elle est en mission puis qu'elle va le perdre, ce poids-là. En plus, elle a eu un accident d'auto. Son dos est un peu débâti. Mais la boxe, là, c'est l'autre défi, OK? C'est ce qui va aider à perdre du poids. Pour le moment, là, elle perd du poids. Elle passe de 325 livres à 175 livres, OK? Une perte de 150 livres, si je sais compter. Là, c'est certain qu'elle veut boxer. Mais Vanessa Lepage-Joannis, là, est dans une division qui n'intéresse personne. Puis, chaque promoteur a déjà son monde de signer. Et là, je veux pas me donner du crédit plus qu'il m'en revient, mais moi puis Vincent Tremblay, on fait des entrevues le vendredi, et là, on martèle. Oubliez pas de signer Vanessa Lepage-Joannis, hein? 4 combats est en championnat du monde. Puis, elle donne un tabarnage de show. Puis là, moi, je rappelle tout le temps l'histoire du combat contre Annie Mazerolle, qui est le combat de la soirée à l'Olympia à Montréal. Les journalistes avaient capoté. Là, je reviens avec ça à chaque fois. Puis à chaque semaine, Vanessa, puis en privé, j'écris, Vanessa, t'es à 4 combats d'un championnat du monde. Puis là, on l'achale, puis on l'achale. Mais il n'y a pas personne qui va signer. Mais là, on l'achale tellement. Puis en parallèle, on avait réussi à faire signer Alexandre Gaumont avec Eye of the Tiger, en disant que c'était l'agent libre le plus hot. Fait qu'est-ce qui est arrivé, là? C'est qu'il rajoute David O'Reilly, rajoute Pascal Villeneuve qui rêve de sortir de la retraite, mais comme porte-parole Gaëtan Hart, puis on vend 4500 Slush Poppy, le nouveau centre Robert Gertin. Eux, ils ont vendu 3800 la lutte l'année passée. Un gala indépendant, une promotion québécoise. Tout est là. On va vendre 4500 à Robert au Slush Poppy à la même vitesse que mon couteau rentrait dans mon steak tellement qu'il était tendre au casino. Donc là, tout est là. Pour Vanessa, juste que j'ai sauté un gros bout. Pendant le combat, ça a été un combat difficile. Où moi, je trouvais que Vanessa avait le centre du ring lors des 7 des 10 premières rondes, des 10 rondes. Après ça, j'ai trouvé qu'elle a vraiment été... Elle a perdu les 2 premières rondes, mais après ça, elle va gagner 3 et 4. Elle va comme faire certains ajustements, être plus compacte en défensive, arrêter de... Elle, ce qui était bizarre, c'est qu'elle lançait un excellent jab, puis quand elle lançait la main arrière, c'est là qu'elle se faisait piéger par le retour. Fait, elle s'est mise à varier un peu, à lancer des mains arrière uniques. T'sais, ce qu'il ne faut pas faire d'habitude, elle s'est mise à le faire avec un certain succès. Main arrière unique, rester compact. C'est vraiment elle qui se déplaçait mieux. Mais après ça, je lui donne le 5e à Vidal. Et puis Vanessa, je la vois vraiment gagner des rondes entre 5 et 9 qui font la différence. C'est qu'elle va chercher un 4 rondes collé dans mon livre à moi pour manger une volée au 10e, puis s'en sortir 96-94 sur ma carte des juges. Okay? Mais Je le sais que ça n'existe pas, mais dans un combat où la ceinture est vacante entre deux aspirants mondiaux, comme on a ici, dans un monde idéal, lors d'une victoire par décision partagée, j'exigerais une revanche automatique où la championne obtient 2/3 de la bourse et l'aspirante obtient 1/3, quitte à donner un bonus de 10% à la gagnante pour faire un 66/1/3, mais 2/3, 1/3 sur le premier 90% et la gagnante obtient 10%, ce qui fait que l'aspirante peut aller chercher jusqu'à 42 ou 43% de la bourse. On a vu ça. Ça devient un split 58-42 qui est un peu plus peut-être juste dans ces situations-là. Mais on devrait appuyer sur le piton. Revanche obligatoire. Et on se casse pas le basic. Donc, si Vanessa, dans un monde idéal, moi, si je suis le promoteur, soit que j'y vais avec une défense optionnelle pour calmer les choses, ou soit la WBC exige la revanche automatique, ou que la WBC exige un combat contre l'aspirante obligatoire qui est Danielle Perkins. Perkins est vraiment dangereuse. Dans un cas où on m'obligerait à affronter Perkins, si je suis le clan Eye of the Tiger, je lance tout de suite un défi. J'essaie de m'entendre avec la championne IBF, Lani Daniel, pour faire un combat d'unification. Parce que la plus dangereuse, c'est Perkins. Donc, oui, on va l'affronter, Perkins. On va juste l'affronter avec plus de titres en jeu. Parce que on va affronter Lani Daniel avant. Fait que, dans un monde idéal, si la WBC ne fait rien, revanche, Daniel Perkins. Dans un monde non idéal, Perkins direct obligatoire. On verra ce qui va arriver et on vend 4500 à Slush Poppy. On fait un party à Gatineau. Party, les Gatineau, le party finit à 1h. On y reviendra fêter à Montréal. On aura le temps. À vitesse que Siamak Ramati conduit, il n'y a pas vraiment de danger. Donc, c'était ta chronique, Vanessa Lepage. Un modèle. Le mot, tu sais, le mot qu'on entend trop souvent, c'est résilience. Je suis allé voir dans le dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire tourner en positif des éléments négatifs de notre vie. Donc, tu te lèves un matin, tu es à 325, ben tant mieux, ça va te permettre de perdre du poids. Quand tu perds du poids, tu es fier de toi, tu te sens mieux, puis tu réalises un projet. Donc, tu as la chance d'être gros, ben profite-en pour faire quelque chose avec ça de positif. Ensuite, on a eu Osley Iglesias qui a affronté Marcelo Caceres. Et là, les gens à la maison, Marcelo Caceres, c'est un peu comme une carte d'affaires, OK? Tu veux montrer ta valeur, tu piles sur le corps à Marcelo Caceres. Le problème, c'est que personne n'avait réussi à le faire. Billy Joe Saunders était impliqué dans un combat ultra serré contre Caceres, qui était son aspirant numéro 11, quand il l'a arrêté sur un uppercut au 11e. Le gars fait la limite avec Bazinian et Berlanga et s'est rendu au 9e. Contre Diego Pacheco. Mais là, il faut comprendre que Diego Pacheco, c'est le trésor de Eddie Hearn. Eddie Hearn, il nous rentre Pacheco dans la gorge comme Legault va vous rentrer des hausses d'impôts le 15 mars prochain. Okay? Donc là, on est pogné. Ah, Pacheco, c'est le meilleur. Et là, puis Berlanga, puis là, on fait passer Berlanga, passe devant Mbili. James Monguia passe devant Mbili. Les autres promoteurs réussissent à créer un buzz sur leurs boxeurs en leur amenant une certaine forme de compétition. Tu sais, Monguia a battu Ryder et Derevyanchenko. Pacheco, ben lui, il n'a pas passé devant encore. Mais après ça, l'autre, là, comment il s'appelle? Il a battu... Berlanga a battu Padraig McCrory. Fait que là, on réussit à créer des buzz pour passer devant Mbili. Mais là, il faut se protéger. Là. Osley Iglesias, mais quand j'ai des béquilles ou des erreurs de français, je vais les répéter. Comme ça, vous voyez que je suis au courant de ce que je fais. Osley Iglesias, lui, ben, on lui demande d'aller plus vite que les autres, probablement. Mais on lui demande pas, mais c'est ça le but. Puis boum, il bat en une minute. Fait que là, et ce Cubain-là, c'est un paquet de troubles. 6 pieds 2,5 à 168 livres, gaucher avec de la puissance. Et là, t'es pas rien que l'école cubaine qui frappe fort. Et lui, son style, je vais vous l'expliquer, c'est d'être très agressif tout en étant en contrôle de la distance. C'est que tu rentres, bang, puis tu sors. Fait que là, le pauvre adversaire, t'as timé ta rentrée pour le swinguer, puis t'as réussi à sortir avant qu'il y ait la contre-attaque. T'sais, c'est ça, ça. Lui, c'est une stratégie de contrôle de la distance agressive. C'est, il restera pas là pour la bagarre. Là. C'est qu'il a trouvé le moyen de rentrer et de ressortir. Un peu comme là, quelqu'un qui vient voler à la TV chez vous, puis t'as pas eu le temps de te réveiller, il n'y a plus de TV. Mais lui, c'est un peu ça. Il trouve le moyen de rentrer, de frapper à l'intérieur. Ben, il est plus là au moment où tu aimerais te venger. C'est... Je vous le présente, c'est Osley Iglesias. Il a raté le poids de point de livre, mais c'est pas même grave. Il s'est mêlé dans quelque chose avec l'Allemagne. En Allemagne, c'est toujours ta division de poids plus un si t'es pas en championnat du monde. Fait que c'est comme un automatisme, tu te bats à 169. Tu signes le combat à 168, il tolère une livre parce que c'est pas un combat de championnat du monde. C'est comme une technicalité dans les contrats. Puis lui, est arrivé ici, il a pensé ça. T'sais. Fait que boum, il se ramasse à 168.3 ou à 0.3 à peser d'hôtel, puis 0.8 à peser un peu médiatique. Fait que rien de trop grave, là, il sera ajusté à la prochaine fois. Et là, le combat entre Butler et Steve Rose, il faut que je vous en parle. Dans la semaine sur mise au jeu, il y avait eu un moment précis, une égalité qu'on appelle, ça veut dire « prends qui tu veux, il n'y a pas de favori ». Puis c'est rare que ça arrive en boxe. Régis Lévesque m'a dit de son lit de mort, c'est le combat parfait, Poulain. Un blanc contre un noir, un français contre un anglais, Québec, Ontario, vingtaine contre trentaine, puis il n'y en a aucun qui a le luxe de perdre. Celui qui perd est dans le trouble, il disparaît en sous-carte, puis il se bat pour des miettes. Puis celui qui gagne, il peut retourner contre l'élite. Mais tenez-vous bien, aujourd'hui, Butler est 12e sur BoxRec. Puis Butler, il faut que je lui lève mon chapeau bien haut. Parce que moi, personnellement et en toute franchise, je n'aurais pas investi 50 cents sur Steven Butler. Parce que j'ai trouvé qu'il ne s'est pas amélioré après sa défaite contre Murata. C'était la même affaire. Il est allé perdre contre Jésus de José Macias. Après ça, il va manger une volée contre Alim Kanouli. Mais le combat avant, contre l'Américain, il aurait quasiment pu perdre. Après ça, on y amène un Mexicain de 140 livres pour qu'il se refasse. Il mange des claques de tout bord, tous les côtés. Fait que je me dis, moi, Butler, c'est terminé. Mais Camille et Stéphane, il abandonne pas avec lui, il l'aime comme un fils. Il pige dans ses poches, puis il essaie de le repartir à chaque fois. Le mot-clé ici, c'est loyauté. Steven, il a fait les sacrifices difficiles. Moi, je travaille avec son parrain au travail, OK? Puis il m'a dit, et je cite, « Steven, c'est le meilleur papa de l'histoire. C'est le gars le plus attentionné. Il ferait tout pour ses fils. Il donnerait un rein, puis un poumon, puis sa jambe gauche. » Mais il a quand même, malgré tout cet amour-là, pour, ben oui, assurer une sécurité financière à sa famille, parce que son métier, c'est la boxe, puis pour aller au bout avec la boxe, il a fait ce que d'autres boxeurs ont fait. Il est allé s'isoler aux États-Unis pour pas avoir de mauvaises influences extérieures, pour pas être... je sais pas, il est allé... Tu sais, il reste environ 5 ans où il peut aspirer à l'élite et être au sommet parce qu'il a passé pro très jeune. Donc, il fait ce sacrifice-là d'être loin de sa famille qui aime comme un fou, de sa femme qui aime comme un fou. C'est FaceTime le soir. Ça lui permet de leur envoyer de l'argent, de payer la maison. Personne ne manque de rien. Les enfants vont pouvoir aller à l'école privée. Mais Steven veut, en parallèle, amener sa boxe le plus loin possible puis avoir aucun regret quand il va arrêter. Et là, il est 12e sur BoxRec. Je vous dirais de pas... on verra. Tu sais, est-ce qu'ils ont la formule magique avec Jones Cooley? On peut pas le savoir après une minute de boxe, mais tant mieux pour Steven, puis tant mieux s'il y a une autre occasion. Peut-être que cette fois-ci, on gérera l'occasion un peu mieux, de pas aller le swinguer contre un cogneur trop vite, ou de peut-être qu'on se paiera le luxe de refuser un combat de championnat du monde pour le mieux le préparer, puis lui offrir un combat de 10 rounds avant, ultra compétitif contre quelqu'un qui ressemble à un champion. Tu sais, peut-être, mais écoute, ils vont bien gérer ça comme ils veulent, mais là, ils ont tout le livre de jeu ouvert devant eux. Bravo, Steven. Une leçon de vie. Là, je veux juste vous dire que c'est sûr que là, j'ai essayé de faire parler tout le monde. Qu'est-ce que j'ai su? Okay? C'est que moi, j'étais allé voir Camille, mais je vais vous dire exactement la discussion. Elle n'était pas à micro fermé. J'ai dit, hey Camille, Kevin Lelisadjo en France, il va affronter Giovanni de Caroli samedi. Puis il a dit que la seule affaire qui l'intéressait après, c'était Steven Butler. Pas Steven Butler, c'était Christian Mbili. Est-ce que vous allez aller en France puis remplir 15 000? Et là, il m'a dit, pourquoi pas le Québec? On fait ça ici? Là, moi, j'ai dit, ouais, anyway, il y a plein de Français ici. Puis là, Camille, il n'a pas répondu à ma phrase un peu stéréotypée. Puis là, il a dit, on va faire ça ici, puis on va vendre les droits de télé, puis on va faire un succès commercial avec Kevin Lelisadjo contre Christian Mbili au Québec. Là, j'ai fait, wow, tu sais, mais pourquoi pas, tant mieux pour nous. Fait qu'on a souri. Et là, après ça, il a dit à Marie-Ève Albert, en la regardant, de très bonnes nouvelles pour Léla Beaudoin. Puis il est parti. Parce que quelqu'un lui a envoyé à la main, ou je sais pas. Fait que c'est tout ce que j'ai réussi à faire, à lui tirer les verres du nez. De toute façon, on a un gala le 11 avril. Alors, c'était ma soirée chez Eye of the Tiger, jeudi dernier. Et pour tous ceux qui disent que je suis un employé d'Eye of the Tiger, je vais juste vous dire que j'ai pas payé mon steak, mais que c'était quand même le meilleur steak dans ma vie. Fait que payez-moi un steak. J'offre au groupe Yvon Michel l'opportunité de me payer un steak. Comme ça, ce sera égal et je n'aurai plus de favoris. Merci, je vous aime tous. Nouvelle chronique, vous allez capoter. C'est l'avant-après. C'est que je demande les opinions de Marie-Ève Albert avant le combat de Vanessa Lopez-Joannis et je reviens après pour lui parler. Je vous diffuse ça. C'est vraiment un test scientifique pour voir si ça se tient et si c'est intéressant. En direct avec la plus grande spécialiste de l'histoire de la boxe féminine, Marie-Ève Albert. Marie-Ève, nouvelle chronique, je viens d'inventer ça. Avant le combat, ce soir, on a Abril Vidal qui affronte Vanessa Lopez-Joannis. Moi, je tripe ces combats de championnat du monde parce que souvent, ils font tomber des ballons du ciel ou des confettis partout, puis on vit l'histoire un peu. À quoi, avant le combat, tu t'attends à quoi comme combat?
Ben, je m'attends à un combat qui soit quand même assez serré, plus serré qu'on pense. J'avais dit une large décision sur mon podcast pour Vanessa, mais j'ai vu Abril à la pesée hier, qui est très en forme. Elle semble être très motivée. Je pense que Vanessa va gagner par décision, mais ça va être une décision un petit peu plus serrée que j'avais prévue. Peut-être 97-93, 96-94, quelque chose comme ça. C'est comme ça que je le vois.
As-tu l'impression que ça pourrait être le combat de la soirée? Moi, je reviens toujours avec ça, mais quand Vanessa boxe, elle vole le show.
Vanessa est une entertainer de première qualité et Avril Vidal a tendance à embarquer dans ce genre de combat-là aussi. Ça pourrait être intéressant, ouais, pourquoi pas?
Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais te réinterviewer après le combat, puis on va voir si tu avais eu raison, puis ça va être incroyablement interactif pour les gens à maison.
C'est quoi, toi, ta prédiction?
97-93, Vanessa Lopez-Joannis.
Bon, ben, on est à peu près dans les mêmes eaux.
On s'aime. Incroyable décision partagée des juges. Il y a du monde qui ont déchiré leur chemise dans la foule. Marie-Ève Albert, es-tu remis de tes émotions?
Je suis contente pour Vanessa. La fille est émotive, elle a travaillé fort pour arriver là. C'est un combat serré. Dans l'entrevue pré-combat, je t'avais dit que j'avais changé d'idée depuis le podcast puis que je m'attendais à une décision un peu plus serrée que ce que j'avais prévu. Je pense qu'on a été gâtés. Le combat était très bon. On a eu vraiment un vrai combat. Tous les détracteurs de ce combat-là qui disait « Ah, la fille est inactive » puis blablabla, ben il n'y a rien qu'à le regarder s'ils ne l'ont pas vu, là, mais c'était un excellent combat, sincèrement, là, ça valait la peine.
Ben, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Moi, j'ai pas changé d'idée. On fait une revanche à Slush Poppy.
Ben, on peut avoir une revanche à Slush Poppy ou aller vers l'unification, peut-être avec Lenny Daniels. Ça pourrait valoir la peine. Ça dépend c'est quoi le budget, Camille, puis qui veut venir, là, mais il y aurait une grosse foule à avoir pour Vanessa, là. Là.
On écoute Marie-Ève au podcast 120 secondes. Merci, au revoir.
Au revoir.
L'entrevue officielle avec la championne du monde, Vanessa Lepage-Joannis, vous est présentée par FightNight.co. Présentement, on recherche C'est ta chance parce qu'on a besoin de quelques kickboxeurs et on a besoin, tu as deux choix. Soit que tu viens te battre en kickboxing ou soit tu t'achètes un billet pour venir au gala. Donc, on contacte Benjamin Théberge sur FightNight.co, le défi du peuple. 13h30, la boxe, avec en grande finale le boxeur invaincu à FightNight.co, le Roy Jones de la Mauricie, Siamak Ramati, et le soir, un gala de kickboxing de niveau très élevé. Donc, on contacte Benjamin Amel Théberge au FightNight.co, ou si vous voulez des billets, écrivez-moi, je vais vous les vendre, moi, les billets, pas de problème. Donc, on contacte Benjamin Théberge si on est un kickboxeur ou on achète des billets si on n'a pas envie de se manger un pied d'en face le 30 mars prochain à Trois-Rivières. Merci et merci à Benjamin qui vous présente cette entrevue exclusive.
Vanessa, as-tu l'impression que c'est un peu aussi la victoire de moi et Vincent Tremblay qui on a milité très fort pour que tu reviennes? On parlait de toi à chaque semaine. Puis nous autres, ben, on y croyait. Mais nous autres, on croyait que tu allais revenir. On croyait qu'un promoteur allait te signer. Mais là, tu as fait la troisième étape. Tu es devenue championne du monde. Puis tiens-toi bien. Moi, j'avais 96-94 pour toi.
OK.
Vanessa, c'est comment être championne du monde?
C'est plein de sentiments en ce moment. J'en reviens pas, je pense encore. Je vais peut-être prendre une couple de jours pour digérer ce qui se passe. Mais je suis juste sur un sentiment de fierté en ce moment. C'est tellement de travail en arrière de ça depuis combien d'années. Ça fait 6 ans et demi que je la rêve de cette ceinture-là. Je peux pas croire qu'à soir, je vais dormir avec.
Ta ceinture?
Ah oui, c'est sûr, je dors avec.
Ton chum, lui?
Ah, il va dormir à côté puis la ceinture l'autre bord.
Mais là, je suis content pour toi parce que t'es blessé aux yeux puis aux oreilles, mais ça t'empêchera pas de jouer au bowling.
Non, écoute. Ça, c'est le contrat. Le chum, il a dit toutes les fins de semaine du mois de mars, c'est en tournoi de bowling avec moi.
OK, là, j'ai un plan. Là. Si la WBC veut une revanche obligatoire, c'est pas grave, mais on remplit le Slush Poppy.
Ah oui, ça serait bon. Ça serait... Écoute, ça serait un de mes désirs, mais je pense qu'on a en plus 4 peut-être bons boxeurs locaux. On serait capable, je le souhaite.
Je te laisse parce que là, t'es devenue une coqueluche.
J'adore les galas, hein. En Arabie Saoudite, le vendredi après-midi, mais les gens, ils me font rire parce qu'ils payent leur... c'est quoi le mot-clé, là? Ils payent leur révérence à Ali El Turkish, là, le nouveau... le nouveau roi de la boxe, n'ayons pas peur des mots, celui qui contrôle tout. Fait que là, il est tout le temps comme... tout le temps, le monde prenne le micro. Alors, je suis vraiment content d'avoir gagné. J'aimerais remercier Turki Al-Alish. Ça me fait rire. Ce gars-là est puissant. Organise les combats qu'on veut. C'est merveilleux. Dans un autre ordre d'idées, Mathieu Germain affrontera finalement Zoyt Ozadan. On a vu, je me suis chicané toute la semaine avec le groupe Yvon Michel sur mon Facebook. C'était plus avec la madame de presse. Ces gens-là... que je ne déteste pas, mais souvent, ils ont une façon de procéder, ils ont étudié à l'école et ils comprennent absolument rien aux années 2024. La madame qui a beau m'insulter ou dire que j'étais un pas fin ou je me suis trompé, je crois qu'elle ne se rend pas compte que cette semaine... il n'y a absolument personne qui va parler de son Mathieu Germain, ou très peu. Genre. Elle devrait être là pour le rayonnement des athlètes et chercher de la visibilité. Puis la seule personne qui donne la visibilité, ben non, les seules personnes, tu sais, c'est un peu, ça va être moi, hein, avec Boxing Town, ça va être Box au menu, qu'ils font bien, mais c'est pas l'apanage, là, la couverture de Box présentement, c'est un entrefilet, tu sais, si on veut, on veut relancer la Box, on va avoir besoin d'à peu près tout le monde. Tu sais, Box au menu, là, ils ont 133 000 abonnés ou 165 000 abonnés. Pas mal sûr que quand ils écrivent quelque chose, ça rejoint plus de monde que le Journal de Montréal en papier. C'est ce que je veux vous dire. Bravo à eux. Donc, Mathieu Germain va affronter Zoyt Ozadan. Ozadan, qui est un boxeur qui switch des deux côtés, qui n'a pas de victoire nécessairement significative sur sa fiche. T'sais, pour vous donner une idée, son dernier adversaire était un gars de 11 et 54. Mais... est allé affronter Sean McComb, qui est un gros prospect, n'a pas gagné un round. Donc, on pourra comparer avec McComb. Pas méchant comme adversaire pour un jeudi soir. Supposément qu'il n'y aura pas de diffusion web. Donc, je sais pas trop. Je sais pas. Je n'ai pas plus d'informations que ça. Il n'y avait rien dans le courriel. Donc... À suivre si ce sera disponible ou pas. Sinon, ben, je sais pas. On demandera à quelqu'un qui est allé. Moi, il faut que je travaille. Aujourd'hui en France, pour ceux qui nous écoutent, dès que ça sort, Kevin Lelisadjo va affronter Giovanni De Caroli. C'est son dernier combat avant un stop contre Christian Mbili. De Caroli, 33-10. Mon accent français, ça va faire. Et en demi-finale, on a Michael Diallo, qui est un solide boxeur, le bombardier catalan, si ma mémoire est bonne, qui va affronter Najib Mohamedi, qui refuse de s'arrêter. Et pour Marie-Ève Albert, on a Marine Beauchamp, 5 victoires, 1 défaite, qui affronte... Et mon Dieu, je m'en rappelais par cœur, puis là, je descendais, parce que j'ai plus d'iPad, puis là, j'ai comme figé. Majouda Oubdil, si ma mémoire est bonne, une boxeuse du Maroc, surnommée la gazelle du désert, par simple... C'est par cœur, là. Mon iPad, j'ai toujours pas eu de nouvelles. Missa Fidion est en amour, fait que pour moi, ça va être long pour la réparation. Ailleurs dans le monde, je pense qu'il y a d'autres gars-là aujourd'hui, mais je suis pas sûr de rien. Donc, c'est toujours un peu la chronique la plus déboîtée. On a mon préféré, John Fernandez, c'était aujourd'hui contre Jezreel Corrales. Je vous l'ai dit que j'allais essayer de me trouver un poste de télévision pour ça. Sinon, tranquille, parce qu'on a tout eu hier. T'sais. Hier, on en a tellement reçu qu'aujourd'hui, c'est tranquille. Mais on peut pas non plus... On peut pas non plus être, en avoir à tous les jours. Là. Ça deviendrait exagéré. On saurait plus où donner de la tête. Hier, en Arabie Saoudite, devant le grand... faut le remercier tout le temps. J'ai plus le choix. Genre, un jour, il va bien commanditer mon podcast. En plus, devant le grand Turquie, le grand... Comment qu'on l'appelle, donc? Le grand Turquie Al... Je ne me rappelle pas, mais il faut le remercier de nous avoir donné ce gars-là. Ray Vargas, c'est ça, je vois par mes combats que je me rappelle par cœur. Ray Vargas a fait un match nul avec Nick Ball. Vargas mesure à peu près 6 pieds 8 à 130 livres. Okay? Nick Ball mesure à peu près 5 pieds 7. Puis, Vargas a gagné les 5 premières rondes. Puis après ça, il s'est mis à visiter le tapis, à se faire mal. Il avait l'air d'avoir perdu, ou ça avait l'air d'un 113-113. Puis finalement, victoire pour Ray Vargas dans la controverse. Madrimov a battu Kurbanov. Puis ça, c'est un peu étrange parce que Madrimov, il y avait un seul KO. Il y avait 6 KO en 9 victoires. Mais il s'était fait surprendre par Michel Soro sur un combat nul. Donc c'était comme... l'histoire du meilleur prospect que vous avez jamais vu à 154 livres, mais qui rate son coup la journée qu'il ne peut pas rater contre Soro. Puis que là, on se demande si c'est encore le meilleur prospect de l'histoire. Là, on enlève le titre à Charlot. Puis deux jours avant, on annonce que Madrimov et Kurbanov se battent en championnat du monde régulier. Fait que bref, Madrimov est rendu champion WBA à 154. C'est un fou furieux qui a déjà eu une mauvaise soirée. Après ça, Joseph Parker affronte Zay Lezang. Et au début là, du combat, là, il n'est pas capable de gérer la puissance de Zang. Il se ramasse au tapis. Zang est là qui le teste. Puis là, il s'amuse. Puis Zang, il te l'envoie au tapis au troisième, au huitième. Mais le problème, là, c'est que Parker gagne tous les tabarnages de rondes qu'il ne va pas au tapis. Après, là, 4 ou 5 rondes, là, il se met à gagner du 6, 7, 9, 10, 11, 12, 4. Puis là, mon autre Zang, il est fatigué. Genre. Il frappe fort, je vais le voir, mais il est fatigué. Fait que Parker gagne par majority decision. Moi, j'en reviens pas. Dillian White offre une revanche à Parker. Parker est rendu ailleurs. Il vient de battre Simon Kane, Wilder, puis Zang et Zang, un en arrière de l'autre. Je vois le vert. Donnez-y. C'est lui qui va mériter sa chance en championnat du monde. Si ça continue, j'en reviens pas. Après ça, Justin Uni gagne de peine et de misère contre Kevin Lerena. Ça fait, pour moi, ça va convaincre Lerena de retourner à 125 livres et de faire un tabac. Mark Chamberlain l'emporte contre Gavin Gwynn, combat qui était quand même serré sur papier. Roman Fury l'emporte sur Zvac. Et Anthony Joshua a renvoyé Ngannou en MMA. C'était d'une violence extrême. Il l'a envoyé trois fois au tapis. Pour moi, ça va faire croire à Tyson Fury qui est fini. Genre. Moi, c'est vraiment ça que... Tu sais, des gens là, qui prétendent pouvoir boxer, qui viennent de d'autres sports, puis qu'à un moment donné, là, il y a un reality check violent. Tu sais, t'es soit une vedette de MMA ou soit une vedette de YouTube. Puis là, tu te fais cogner d'une violence extrême, OK? Ça prend beaucoup de docteurs pour te ressusciter, là. Puis c'est le mot que j'ai envie de dire, ressusciter, OK? À un point où Joshua ne célèbre pas parce que l'autre est peut-être mort, OK? Je pense que le message, là, c'est rester dans vos octogones. Restez dans vos octogones. Autant qu'à l'inverse, restez dans vos rings de boxe. C'est deux sports différents. Le seul problème, c'est que l'argent arrive vite en boxe. T'sais. Puis en MMA, dans votre sport que vous aimez tant, vous restez pauvre toute votre vie. Je. Fait que. Je sais pas. Mais arrête ça, là, Ngannou. T'es 0-2, là. Puis c'est juste parce que Fury, il respecte pas le sport, puis il est arrivé en niaisant, tu sais. Va-t'en pas là pantoute, là. Faut que ça arrête. Faut que ça arrête. Il va y avoir des morts, OK? Puis c'est intéressant parce que Joshua est vraiment en train d'avoir un deuxième souffle, puis de relancer sa carrière. Puis là, finalement, tu sais, si Fury meurt pas contre Usyk parce qu'il est pas en santé... on va vendre beaucoup de billets en Joshua puis Fury après. Ça ouvre à beaucoup d'opportunités. Pourquoi pas Joshua Usyk 3? T'sais, il peut tout avoir. Bon, moi, Canelo va défendre tous ses titres contre Munguia. On l'aï Canelo, mais qu'est-ce que tu veux? Il faut bien que j'en parle quand même. Il va défendre tous ses titres contre James Munguia le 4 mai prochain, même si on l'aï pour mourir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en reviens pas encore que Parker ait gagné. Faut juste que je regarde. Mais c'est par cœur. Hein? C'est par cœur, la pognez-vous. Parce que mon iPad est brisé. Chris Eubank Jr. affronterait Terence Crawford. De beaucoup de rumeurs. Je sais que Conor Bean pourrait affronter Pacquiao qui est rendu à. Faut que je boye une fois par épisode. Hein? Pacquiao qui est rendu à 134 ans. Nick Ball, lui, a fait le match nul contre Ray Vargas. Mais tout de suite, Raymond Ford lui a offert un combat de championnat. Fait que ça, c'est quand même sympathique. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur ma grande feuille? inquiétez-vous pas, là. Ça a fait du bruit, la victoire de Steven Butler sur Steve Rose. Je l'ai vu sur plusieurs sites internationaux. De La Hoya n'a pas répondu aux rumeurs sur Canelo et Munguia, mais ce serait officiel maintenant. Fait que... Bon, Tim Zhu a hâte d'assommer Keith Thurman pour passer à autre chose dans mes dossiers. Tyson, c'est sûr que Mike Tyson va affronter Jake Paul sur Netflix. Là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai souris. Là. Je m'assois, je regarde la finale, je mets mon cerveau à off comme quand j'écoute Virginie à Radio-Canada, puis j'arrête de tout le temps me fâcher ou quelque chose. Tu écoutes ça, tu ris, puis fâchez-vous pas. Genre, c'est juste drôle. Ils ont 30 ans de différence. Ils veulent niaiser le 20 juillet prochain sur Netflix. Je me fâche même pas. Je me fâche plus. C'est pas grave. Okay. Dillian White va affronter Christian Hammer. Grand bien lui fasse. Et c'était pas mal ta chronique internationale. Donc, amusez-vous. Quoi d'autre? Je vous aime tous et chacun. Mais jamais autant que Martine Vallière-Bisson. Qui préparez-vous? Martine, elle va partir de loin, mais elle va retourner au sommet. Et nous serons tous là pour l'applaudir. Merci, je vous aime tous. À la prochaine.
Te souviens-tu, Wilkins, quand il y avait eu le gala entre Simon Kane et Dylan Carmen à Québec, j'avais essayé de te signer avec 500$ pour 10 ans. 800, puis là, je te disais, t'es rattaché des souliers au centre d'achat. Ça aurait été mon meilleur investissement.
Ouais, probablement, ouais. C'est vrai.
Là, te souviens-tu aussi, je t'avais dit, un jour, tu vas remplir le centre Vidéotron. Puis là, je regarde, t'es rendu, tout va bien. Combien de fois tu veux te battre cette année?
Cette année, je suis déjà rendu à 3. Il y en a un quatrième en avril. Je pense que je vais te faire à 8 combats cette année, facile.
Tu te vois, tu sais, parce que je trouve que t'as mûri physiquement rapidement. Tu sais, t'as ouais. déjà l'air de ce qu'on appelle un homme. Tu te vois à combien d'années d'être prêt à affronter les meilleurs? Tu sais, je te connais, là, tu connais tout le top 5. Tu manques jamais un combat, tu manges de la boxe. Mais à combien d'années, toi, t'estimes que tu peux aller cogner aux portes, mettons, d'un top 10?
Réalistiquement, tu sais, j'ai le talent pour compétitionner avec n'importe qui. Niveau talent, je l'ai. Tout ce qui manque, c'est l'expérience puis la maturité physique. Puis ça, je pense, ça va se développer d'ici que je sois à mon plein, là, au niveau maturité physique puis expérience, puis que je sois prêt à affronter les tops dans les combats de 12 rounds, je pense, dans 4 ans.
4 ans?
Ouais.
Ouais, ça va être bon, ça. Puis, ben merci, puis bravo, là. Puis en plus, maintenant, tu peux rentrer au casino, fait que c'est
ouais.
parfait.
Ouais, c'est vrai. Sans me faire carter, en plus.
Te souviens-tu de ce temps-là où ton frère boxait puis toi, t'étais resté comme à l'entrée du casino parce que t'avais pas de carte?
Ouais, je m'en souviens. C'était plate. J'ai manqué comme la moitié de ses combats.
T'as manqué ses débuts pro. Hey, merci. Je vois qu'il y a d'autres médias qui te tirent la main.